le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons le pasteur Étienne Wächter, pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres. Il est aumônier en chef du culte protestant pour l'aumônerie protestante aux armées. Le texte principal du culte de ce matin nous transporte près de 2500 ans en arrière, à l'époque du prophète Néhémie. Le pays est dévasté par la guerre. Il faut reconstruire Jérusalem. Nous sommes alors témoins de l'émotion du peuple d'Israël quand il redécouvre la loi de Dieu.
Bonjour. Nous avons toujours besoin de nous arrêter dans notre rythme quotidien ou habituel pour nous mettre à l'écoute de paroles qui puissent nous interpeller, nous accompagner et, je l'espère, nous encourager. Que le Seigneur lui-même nous donne à chacun de nous sa joie et sa paix, car il connaît nos désirs et nos peines. Il connaît le chemin de nos cœurs. Il unit maintenant nos pensées et nos paroles pour ce temps de culte que nous vivons. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, tous les témoignages des prophètes et des apôtres, et de Jésus ton Fils plus que tout autre, nous révèlent ta bonté sans limite pour tous les hommes. Seigneur, pardon d'être nous-mêmes si pauvres en amour, en joie, en confiance et en reconnaissance pour toutes les grâces que tu nous renouvelles jour après jour. Pardon, Seigneur, pour notre manque de logique, pour notre égoïsme, pour cette dureté de cœur dont nous faisons preuve. Et pour l'amour de ton nom, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Écoutons cette parole de l'Écriture. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Devant Dieu, nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Et nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres sous la conduite de l'Esprit. Écoutons ensemble ce que Dieu attend de nous, à quelle place il nous veut, chacun. Si la note disait « ce n'est pas une note qui fait la musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « ce n'est pas un mot qui peut faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité, il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Oui, comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, l'humanité tout entière a besoin de toi, de moi, de tous là où tu es, là où je suis, unique et donc irremplaçable. Telle est pour chacun de nous la volonté de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, prions le Seigneur Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Et Seigneur, nous voici assemblés pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Seigneur, par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Écoutons maintenant les textes du jour. Nous lisons tout d'abord dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, les versets 1 à 10. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maaseya, et à sa gauche Pedaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Puis dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 14 à 26. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe. Serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Et une dernière lecture de quelques versets dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » En lisant tout d'abord ces paroles dans le livre de Néhémie, nous pouvons voir un parallèle avec ce que vivent de nombreux croyants chaque dimanche, des hommes, des femmes et des enfants qui se rassemblent pour plusieurs temps, qui nous sont peut-être familiers, un moment de prière, un geste d'adoration de la part de l'Assemblée, puis la lecture du livre de la loi, nous pouvons aussi dire lecture de la Bible. Enfin, chaque passage est expliqué afin que le peuple rassemblé puisse en comprendre le sens et le moyen de le mettre en application. C'est bien là la forme du culte dans la synagogue qui sera ensuite reproduite dans le culte chrétien. Et voici quelques éléments qui me frappent et m'interpellent. Il est dit que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place. Personne ne convoque le peuple, personne ne l'oblige à venir. Ici, le peuple se rassemble de lui-même, avec le désir de se retrouver ensemble, le désir de mettre une journée à part pour être ensemble devant Dieu. C'est donc bien le peuple qui prend l'initiative et qui demande à Esdras d'aller chercher le livre de la loi et de le lire. Il s'agit certainement de ce qui deviendra le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, et qu'on désigne aussi par l'expression « la loi de Moïse ». Le peuple rassemblé a donc envie d'entendre cette loi, d'entendre la parole de Dieu, et il trouve bon de se mettre à son écoute, afin de connaître la volonté de Dieu et permettre à chacun d'y conformer sa vie. C'est une attitude qui, déjà, doit nous interpeller. En effet, pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous demander ce qui nous amène au culte. Si ce n'est pas la contrainte d'un commandement de l'Église, serait-ce alors l'habitude, la tradition ou un autre motif? En fait, le vrai mobile qui devrait nous pousser est celui-là même qui poussait les gens du temps de Néhémie, le désir d'écouter la parole de Dieu. Non pas l'envie de l'entendre seulement, car on peut entendre sans écouter, mais le désir de se laisser interpeller par cette parole de Dieu qui est dite. Après ce moment de lecture qui dure plusieurs heures, vient le moment de l'explication. On peut supposer qu'Esdras lisait une portion de la loi, puis que d'autres hommes l'expliquaient, après quoi on passait à la portion suivante. Le récit de Néhémie nous dit qu'Esdras était à la fois prêtre et scribe. Plus tard, ce sera justement le rôle des scribes que d'expliquer les textes et de montrer comment il convient de les mettre en pratique. Nous avons donc ici la première ébauche de ce que sera l'institution des scribes à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, Dans nos églises, ce rôle est rempli par les théologiens, par les pasteurs et par les prédicateurs. Et c'est là que se produit une chose remarquable. En entendant commenter la loi de Moïse, les gens se mettent à être tristes et à pleurer. Pourquoi ? Comment expliquer cette réaction ? Sans doute par le fait que les gens se rendent compte que leur vie n'est pas en accord avec cette loi. Autrement dit, ils prennent conscience du décalage qui existe entre la vie qu'ils mènent et la volonté de Dieu. Ils prennent conscience de leurs erreurs et de leurs manquements, et leurs larmes sont des pleurs de repentance. Ils sont tristes de n'avoir pas répondu au projet de Dieu pour eux. Et cela nous pose à nouveau plusieurs questions. Quelle est notre propre réaction à l'écoute de la parole de Dieu? Sommes-nous disposés à recevoir cette parole, à ouvrir nos oreilles pour écouter, à ouvrir notre cœur pour qu'elle nous saisisse au-dedans de nous-mêmes? La parole n'est pas toujours facile à recevoir, c'est vrai, parce qu'elle nous juge et nous dérange. Avec elle, nous ne pouvons pas cacher nos faiblesses et nos erreurs. Nous sommes bien obligés de les reconnaître. Et ensuite, cette parole nous conduit à réorganiser notre vie, à essayer de nous conformer à la volonté de Dieu. Toute écoute de la parole est donc une occasion de remise en ordre pour une plus grande cohérence par rapport à ce que demande l'Évangile. Alors sur le moment, cela fait mal et les gens pleurent. Mais ceux qui leur expliquent la loi de Moïse, on les appelle donc les Lévites, ces hommes leur demandent de ne pas être tristes. La tristesse n'est pas de mise en ce jour, car, disent ces hommes qui font office de prédicateurs, ce jour est saint pour le Seigneur et consacré. Cette expression « saint » ou « consacré pour le Seigneur » est ici répétée, c'est dire toute son importance. Et parce que ce jour est saint, mis à part et consacré, il n'est pas juste de se lamenter. Le Seigneur est bien là, présent avec le peuple rassemblé. Et puisqu'il est présent, puisqu'on entre en communion avec lui, on ne doit pas rester triste, mais on doit se réjouir. La joie est alors le sentiment naturel qui s'exprime quand nous nous trouvons en présence de Dieu. Et à nouveau, plusieurs questions. Qu'en est-il de nos cultes? Qu'en est-il de notre vie chrétienne? C'est le jour du Seigneur. Le Seigneur nous accompagne dans la vie. Alors pourquoi serions-nous envahis par la tristesse? Réjouissons-nous plutôt et montrons que nous sommes joyeux. Les deux autres lectures bibliques proposées pour aujourd'hui nous permettent d'ajouter deux remarques. L'une des lectures, celle de l'Évangile selon Luc, nous montre Jésus en train de participer au culte dans une synagogue le jour du sabbat. Comme c'était alors la coutume, c'est lui, l'homme de passage à Nazareth, qui fait la lecture des textes saints. Et c'est encore lui qui en donne l'explication. Lecture et prédication, nous retrouvons deux des éléments que nous avons repérés chez Néhémie. Ce qui est nouveau ici, c'est le commentaire de Jésus quand il dit « Aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité ». Nous avons ici cette affirmation, et nous le croyons, que Jésus est la réalisation des promesses annoncées par les prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ apporte le pardon comme réponse à notre repentance et à notre regret de ne pas toujours nous accorder à la volonté de Dieu. Il nous apporte la vie, il est la source de notre joie, c'est donc grâce à lui que notre culte peut être joyeux et toute notre existence être pénétrée de sa joie. Jésus, c'est Dieu présent avec nous, et cette présence est notre joie. Enfin, dans le récit de Néhémie, la joie s'exprime par un repas. Allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Voilà le conseil que les Lévites donnent au peuple rassemblé. Les gens sont donc invités à manger et à boire, mais on les invite aussi à partager avec ceux qui n'ont rien préparé. Le bonheur ne doit pas rester le privilège de quelques-uns, il doit être pour tous. Car tous sont liés ensemble, tous forment une unité. Et dans le troisième texte, dans cette lettre écrite aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul exprime cette unité par l'image du corps. Nous sommes les membres d'un corps unique, dispersés par nos différences, mais rassemblés par la même foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons vivre cette unité dans le culte, car nos rassemblements ne sont pas juste la coexistence d'individus, mais doivent être le lieu où se manifeste notre volonté d'être ensemble et de rester unis dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu, mais aussi dans ce que produit cette parole qui nous construit et qui construit l'Église dans la foi et dans la joie. L'épisode que décrit ce chapitre de Néhémie, où d'ailleurs Esdras joue un rôle important, se passe dans les années 440 avant Jésus-Christ. C'est un temps de reconstruction. Il faut reconstruire le pays dévasté par la guerre, reconstruire le peuple dispersé par l'exil, reconstruire la foi éprouvée par les événements, et ainsi retrouver ses racines. Il en est de même pour nous, tout comme la lecture et le commentaire de la loi du Seigneur étaient pour le peuple un moyen de revenir aux sources, pour nous aussi, la lecture et la méditation de l'Évangile sont une source de vie, elles bâtissent nos personnes et nos communautés. Il est bon d'écouter pour vivre selon le projet de Dieu et de vivre cela ensemble. Amen. Ensemble, nous affirmons notre foi en nous associant à ces paroles. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu, le Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit, il a fait l'homme à son image. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, ton amour nous unit. Je crois qu'aimer de Dieu, nous sommes tous frères et que notre amour doit s'étendre à tout homme. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Béni sois-tu. Et nous terminons ce temps par la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel, parce que cet appel a donné un sens nouveau à nos vies, et parce que dans ton plan d'amour pour ce monde, tu nous as assigné une place où nous pouvons servir. Aide-nous à discerner et à comprendre ce que tu as accompli dans le monde, pour que nous désirions avec ardeur y participer, que nous sachions faire aujourd'hui ce que nous n'avons pas su faire hier. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier, ton projet d'accorder à tous les hommes la guérison intérieure et la paix. Nous implorons tout particulièrement ton aide pour ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de placer leur confiance en toi. Augmente notre amour, Seigneur, non seulement pour nos frères chrétiens, mais aussi pour notre proche, quel qu'il soit. Fais de nos églises des lieux d'accueil pour les autres. Montre-nous comment vivre une vie plus conforme à ta volonté. C'est au nom du Christ que nous te le demandons, lui qui nous a appris à te dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous conduise, nous soutienne, nous accompagne tout au long de la semaine qui vient. Que le Seigneur soit avec nous et nous donne sa paix. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Écoutez Dieu, c'était le thème de la méditation du pasteur Étienne Wechter de l'Union des Églises évangéliques libres. Il est aumônier en chef du culte protestant pour l'aumônerie protestante aux armées. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation, Thomas Jost, à la prise de son, Jean-Michel Bernot. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture, dès 9h, vous retrouvez la rédaction pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.